Danny, get the car.
All right, I'm going right now.
We gotta get the f*** out of here, Danny.
Murray Black Steel, pull out 187 if you ain't gon' tip it, motherfucker, I'ma take it. But I'm trying to erase it, just to bring home the bacon. For me to see heaven, I would make the meat Satan. So my heart's all bacon, my mind's on to taste. Brace, hit your raw days. Facelift braces, unsolved cases. Hitting up the witnesses, so can't nobody say. I think the reaper calling, picked up the phone and said I got a cup of ramen. Cause blood in my eye and I'm thirsty right now. Thought I'd make my young man.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à 2000 tours à l'heure, édition du 12 octobre 2016, excusez-moi, je me trompe un peu dans mes dates. Étienne Lapointe au micro de choc.ca et avec vous pour la prochaine heure. Ce soir, on consacre l'émission au deuxième album d'une très grande dame du rock et de l'underground new-yorkais, j'ai nommé Patti Smith. L'album qu'on écoute est le tout premier enregistré sous le nom de Patti Smith Group, mais c'est bon, c'est le deuxième. Il y avait Horses qui était paru l'année d'avant. Il est paru en octobre 1976, donc ça fait 40 ans pile ce mois-ci, et il a pour titre Radio Ethiopia, et je vous avertis déjà d'avance, j'ai un peu de difficulté à prononcer ce mot Radio Ethiopia, il faut que je prenne un accent, on dirait, pour pouvoir le sortir. Je vois l'excuse, c'est un peu gênant. Bon, je prends prétexte d'une exposition qui se déroule présentement au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour faire tourner un peu de Patti Smith. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça n'avait pas encore à donner. L'exposition en question est consacrée aux œuvres de Robert Mapplethorpe, un des plus importants photographes du 20e siècle, qui s'adonne à avoir été un très bon ami de Patti Smith au tournant des années 70. D'ailleurs, Smith a écrit un livre au sujet de cette amitié, même de cet amour, parce qu'ils ont été amants un certain temps, entre les deux artistes. Un livre qui s'intitule Just Kids et qui est paru en 2010. Mais là, j'ai pas vérifié. Comme un nono, si le livre avait été traduit, bon, je présume que vous êtes capable de lire l'anglais si ça vous intéresse. C'est disponible depuis 6 ans, ce livre. Dans le cadre de l'exposition des photographies de Mapplethorpe, les extraits du livre ont d'ailleurs été lus lors d'une séance de lecture spéciale le 1er octobre dernier. Séance que j'ai malheureusement ratée, j'avais prévu y aller, mais bon, j'ai eu un empêchement. Et je suis pas non plus allé voir l'exposition, mais si j'ai bien compris, il y a une section, il y a une partie de l'expo qui est dédiée à Patti Smith, qui a servi à certains moments de modèle à Monsieur Mapplethorpe, alors qu'ils se fréquentaient tous deux, avant que chacun d'eux ne devienne des icônes de leur domaine artistique respectif. Si vous l'ignorez, Mapplethorpe est un photographe qui a débuté son travail en créant des collages à partir de magazines ou de publicités, qu'il s'approprie, manipule et qui repeint aussi au spray can, un genre de mash-up visuel, si on peut dire. Il va se mettre à la photographie en 1970, d'abord en utilisant un Polaroid emprunté, et c'est grâce à des mécènes qu'il va réussir à s'équiper de manière professionnelle et enfin à réaliser une première exposition solo en 1973. La sexualité et le sexe masculin sont au cœur de l'œuvre de Mapplethorpe. Au début des années 70, il va commencer à explorer la sous-culture sadomasochiste et homosexuelle de New York, et ses images sexuelles finissent par représenter cette pratique, le sadomasochisme, pratique particulière, comme un idéal épuré, réduit à des formes et à des compositions géométriques élémentaire. Ces photos explicites, rendues avec une stupéfiante maîtrise technique, à ce qu'on dit, attirent l'attention publique et propulsent son nom sur les scènes artistiques nationales et internationales. Il va réaliser aussi de nombreux nus, qu'on décrit, je cite, comme des études libres matérialisant les observations d'un photographe pour qui la beauté des formes passe avant tout. Mais ces images d'une sensibilité classique s'imprègnent aussi d'une réelle intensité sexuelle. Fin de la citation. Et outre Patti Smith, Mapplethorpe va aussi immortaliser d'autres artistes en photo, des artistes connus comme Yoko Ono et Andy Warhol. Il va mourir en 1989 à l'âge tout jeune, à l'âge de 42 ans, atteint d'une maladie du sida. C'est malheureux. Et donc, si c'est quelque chose qui stimule votre curiosité, vous avez encore du temps en masse. L'exposition se déroule jusqu'au 22 janvier 2017. C'est au Musée des Beaux-Arts de Montréal, sur la rue Sherbrooke-Ouest. Revenons donc à l'album qu'on écoute ce soir. Pourquoi avoir choisi Radio Ethiopia plutôt que Horses, par exemple? Vous vous demandez, j'en suis convaincu. Mais parce que je pense que Horses, qui est le premier album de Patti Smith, est déjà bien connu. Donc, bon, je pense qu'on peut sauter par-dessus. Et je trouve dommage qu'on réduise souvent son œuvre à ce tout premier album, parce que malgré toutes ses qualités, Horses n'est tout de même que la première étape d'une très longue carrière, très riche carrière, marquée aussi par la littérature. Et de plus, sur Radio Ethiopia, Patti Smith n'a pas encore trop subi les pressions de sa compagnie de disques pour qu'elle enregistre un succès commercial, ce qui ne tardera pas, hein, ça va arriver dès l'album suivant, en 1978, avec l'album Easter. Et enfin aussi, moi, personnellement, j'aime bien Radio Ethiopia, surtout la chanson titre, qui dure un peu plus d'une dizaine de minutes, qu'on va entendre sur la deuxième face, et qui laisse beaucoup de place à l'improvisation vocale sans parole, mais en grognement et en ce que Patti Smith appelait des babalogues, c'est-à-dire des mots sans mots pour exprimer de manière plus claire les émotions qu'elle ressentait. Mais on va en parler un peu plus tard, après la première face, qu'on écoute à l'instant, et on se repart dans une vingtaine. Bonne écoute.
Looking at me, ooh, Sous le pogola, par les aventures, mamie Maurice. Inside your temple, it's just like inside the brain of any one man. And she thinks it's ready to me. Will? Me! Shun! Me! Dimension! Me! Dimension!
Country, everyone was very pleased with the state of her mind was gently probed with a finger. Then it's very soaky and spread with butter. And the flowers on the napkin. And then they laid her on the table. She connected with the inhaler. And the needle was shifting like crazy. She was completely still. It was like a painting of a vase. She just lay there, and the gas traveled fast through the dorsal spine and down and around the anal cavity. Her cranium. Just, it was really great, man. The gas had inflicted her entire spine with the elements of a voluptuous disease. The green vapor in her heat-like extinguished
some more. Baby holds it in the closet. Baby get it then, baby tag it. After station is any station.
I remember when
he quit as interesting to me than the 12th station. Tuned in to many centuries. The violent internal explosion resulted in one long ecstatic poet of pure sensation. As a further restriction started excreting, oh, exhilarating bottomless pit. Hey Sheba, hey Salome, hey Venus, eclipsing my way. Ah, the vessel. Every woman is a vessel, is evasive, is aquatic. Everyone silver is static. Platinum.
Bonsoir de retour à Demi-tour à l'heure sur choc.ca avec Étienne Lapointe au micro. On écoute ce soir Radio Ethiopia, le deuxième album de Patti Smith, le premier enregistré sous le nom de Patti Smith Group. On vient d'entendre la toute première face qui s'ouvrait avec la pièce Ask the Angels. C'était suivi de Ain't It Strange. Ensuite, on entendait Poppies et enfin la quatrième et dernière pièce, Pissing in a River, un titre que je trouve bien amusant. Patti Smith fait son entrée officielle, si on peut dire, dans l'univers très masculin du rock en décembre 1975 avec la sortie de Horses, un premier album assez bien connu, hein, paru sur le label Arista et produit par nul autre que John Gale, l'ancien du Velvet Underground. Et ça s'entend un peu dans les arrangements de guitare, parce que ça rappelle vaguement ce que le Velvet faisait. Mais Patti Smith était déjà bien connu avant ça dans l'underground montréalais. Elle est née le 30 décembre 1946 à Chicago, dans l'Illinois, pardon. Mais la famille Smith déménage rapidement à Germantown, en banlieue de Philadelphie. C'est là que Mademoiselle Smith va grandir. Les parents de Patti Smith, issus de la classe ouvrière, vont l'inciter très tôt à développer sa créativité et ses talents artistiques, en plus de l'initier au jazz. Le jazz qui était une passion pour sa mère, qui était chanteuse de jazz semi-professionnelle, si je ne me trompe pas, chantait dans des petits cabarets. Elle n'a jamais réussi à en faire une carrière, malgré sa grande envie. Et c'est donc en écoutant Duke Ellington et Frank Sinatra que la petite Patti va faire son éducation musicale. Souvent malade, c'est lors d'une convalescence que sa mère va lui offrir un album qui va changer sa vie, c'est-à-dire Another Side of Bob Dylan, le quatrième album du célèbre chanteur folk, et c'est une révélation pour Patti Smith. Et quelques mois plus tard, on est en 64-65, elle voit les Rolling Stones chanter au Ed Sullivan Show, ils chantent Time is on my side, et Patti Smith va littéralement tomber amoureuse de Mick Jagger. Amour qui va se déplacer quelques mois plus tard, lorsqu'elle verra les Stones en spectacle, l'amour se déplace vers Brian Jones, le guitariste des Rolling Stones, qui va décéder tragiquement en 1969. Outre la musique, Smith est fortement attiré par la littérature française, comme Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, la littérature du 19e siècle, et aussi Albert Camus au 20e siècle. Et elle lit ses contemporains, bien que plus âgés qu'elle, les poètes beat comme William Burroughs et Allen Ginsberg. En 67, Patti Smith va déménager à New York après avoir confié son nouveau-né à des services sociaux, un geste qu'elle dit avoir profondément regretté une grande partie de sa vie. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi elle va tout mettre de côté pour se consacrer à sa vie familiale au tournant des années 80. Ironiquement, son arrivée à New York, Patti Smith, qu'on considère comme une des figures les plus importantes du féminisme et du rock au féminin, n'envisage vraiment pas une carrière d'artiste, mais plutôt de muse. En fait, elle espère être la maîtresse d'un grand artiste. Et c'est un peu sous l'impulsion de son nouvel ami et amant, Robert Mapplethorpe, dont j'ai parlé un peu plus tôt, que Patti Smith se met au dessin et à l'écriture de poésie. Et c'est lors d'un voyage en France qu'elle va avoir la révélation qui va la pousser à chanter ses poèmes. En 72, elle visite la tombe de Jim Morrison, décédé en juillet 71 et enterré au Père Lachaise à Paris. Et elle va revenir à New York et elle se met à la chanson en s'accompagnant uniquement d'un piano. Elle s'intègre rapidement à la scène musicale underground de New York, notamment en ouvrant pour les spectacles de télévision au CBGB's, la célèbre boîte de spectacles, en 1974. Si vous ne connaissez pas télévision, je rappelle que j'ai fait tourner leur premier album, Marky Moon, le 31 août dernier. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible en podcast via le site de choc.ca ou encore sur iTunes et Google Play si vous voulez vous abonner. Et c'est ainsi, en faisant des spectacles, en ouvrant pour les shows de télévision, qu'elle attire l'attention et qu'un certain Lou Reed la recommande chaudement à Clive Davis, grand patron alors chez Arista, et la carrière de Patti Smith va prendre son envol sur disque à ce moment-là. Je disais précédemment que pardon, que Patti Smith est une des grandes figures à une icône du rock au féminin et féministe. Or, comme les Suzy Quatro, Chrissy Hynde ou encore Joan Jett, c'est en adoptant un look un peu tomboy et en s'identifiant à des modèles masculins comme Jim Morrison qu'elle entre dans ce monde passablement macho du rock. Mais elle va s'affranchir assez rapidement de cette attitude garçonne pour offrir des chansons dont la poésie est ouvertement revendicatrice et féministe. Comme la chanson Rock'n'Roll Nigger est un bon exemple, hein, on la retrouve sur l'album Easter qui sort en 78. Une chanson dans laquelle Smith affirme que le statut de nègre n'a en fait rien à voir avec la couleur de la peau, mais tout avec la condition et l'oppression sociale. Et elle reprend ici un peu une idée qui avait été développée précédemment par Yoko Ono, qui avait co-écrit avec John Lennon, son mari, la chanson « Woman is the Nigger of the World » en 1972. Patti Smith connaît son plus grand succès commercial avec la chanson « Because the Night » écrite en collaboration avec Bruce Springsteen et qu'on retrouve aussi sur Easter. Et surprenant ses fans, comme je disais plus tôt, Patti Smith se marie et disparaît de la scène en 80 alors qu'elle se consacre à sa vie de famille. Elle va effectuer un retour en 1988 avec le décevant « Dream of Life ». Et depuis le début des années 90, Patti Smith a fait paraître 12 livres et 6 nouveaux albums, en plus de donner des concerts ici et là pour diverses occasions. Est-ce que j'ai plus ou moins de temps? Je parlais tantôt de Babalogs, hein? Pour reprendre un peu l'idée, Patti Smith fait souvent, du moins à ses débuts, des improvisations vocales où elle ne dit pas de mots et elle s'imagine que c'est comme ça que c'était avant que l'épisode de la tour de Babel, c'est-à-dire, bon, les gens, c'est dans la Bible, les gens voulaient construire une tour qui rejoindrait le ciel, Dieu lui était pas content, donc il les a mélangés en les forçant à parler des langues étrangères, et c'est comme ça que les langues étrangères seraient nées, et Patti Smith se plaçait dans la position de ces individus avant qu'ils se mettent à parler des langues qu'ils ne comprenaient pas, et elle se disait que c'était plus facile de partager, de communiquer ses émotions en utilisant donc une langue, si on veut, d'égrognement ou une langue sans parole. Ceci étant dit, on va se lancer immédiatement sur la phase B qui commence, pardon, avec Pumping My Heart. On se reprend dans une vingtaine de minutes.
Shattered, I'm so tired.
De retour à deux métours à l'heure, Étienne Lapointe au micro de choc.ca. On vient d'entendre la deuxième face de l'album Radio Ethiopia de Madame Patti Smith et de son groupe, le Patti Smith Group. Deuxième face qui s'ouvrait avec la pièce Pumping My Heart, c'était suivi de Distant Fingers. Ensuite, la troisième, Radio Ethiopia, une longue pièce hein, quasi instrumentale, sans parole, avec Patti Smith qui fait ce que j'expliquais tantôt, c'était des Babalogues. Il y a une pièce d'ailleurs hein, qui porte ce titre-là sur Easter, si je me trompe pas. Et ensuite, la dernière et quatrième pièce, Abyssinia, qui est en fait un peu la prolongation hein, de Radio Ethiopia. Donc, c'est tout le temps qu'on a pour cette semaine, parce que la dernière pièce avec laquelle on va se laisser est un peu longue. C'est une pièce qui s'intitule Chiclets, qui est aussi du Patti Smith Group, et qui se retrouve sur la réédition CD de Radio Ethiopia, paru en 1996, hein, c'est fréquent, les éditions CD ont souvent des chansons en bonus, et c'est donc ça qu'on va entendre pour se quitter. La semaine prochaine, on va être de retour une fois de plus, même heure, même poste. On va écouter probablement Ether Whore, troisième album, si je ne me trompe pas, de... Voyons, j'oublie son nom. Elliott Smith, donc on reste dans la famille Smith, même si je pense qu'il n'y a pas... Bon, en fait, je suis pas mal convaincu qu'il n'y a aucun lien familial entre les deux personnages. Ether Whore, qui était l'album rétro de la semaine dernière au palmarès de choc, donc je vais en profiter pour le faire jouer dans sa totalité la semaine prochaine. Donc, on va se quitter avec avec Chiclets et on se reparle la semaine prochaine. C'était Étienne Lapointe au micro de Deux Métours à l'heure qui vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit sur choc.ca. À la semaine prochaine!
Don't worry, we'll find it. But keep it really sexy and like dark. You know, like in a really damp cave. Last night I woke up from a dream. Came the face. Desperate beauty of a middleweight boxer. Came beating the force field with the elegant grace of a... He was... He was trying to... get a perfect grip, but there was no absolute grip. He was in a sailboat in a grass bottom boat. In the bottom of the boat was coming down through the ages. Sea, waxy, molten, hot liquor spilling down the two spiny eyes of the village, the spinal eye of his victim's spiny eye, the tip it was slipping in his victim like a question mark. He hobbled over him. You think there was an actual connection in the cave? I just can't imagine a connection going down there. I can't imagine any connection at all. Like a boxing ring with gold ropes, soft, sort of the very softest, most desperate carrot.
top. Spinning. And coming down. Through the ages. Give yourself a fade out.